Juste après, Vibre SOS sur l'antenne de Graphite, vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h. Biotine, c'est l'émission qu'il vous faut, matin, midi et soir. C'est l'émission qui parle de science, qui parle de technologie, de médecine, qui parle de nous, de notre avenir, de notre société. Je m'appelle Jean-Noël et je suis avec Carole. Oui, je fais un slogan.
Salut Jean-Noël. Et je trouve ça très bien. Non, justement, je validais.
Mais merci. J'ai l'approbation de Carole. Ça me touche énormément. Merci Carole de m'accompagner depuis quelques semaines sur l'antenne de Graphite.
Et c'est un plaisir tous les samedis.
J'ai énormément de retours des auditeurs qui me parlent de toi, qui suivent tes stories Instagram, bien évidemment.
Et il y en aura encore beaucoup. Je ne compte pas m'arrêter là.
J'espère bien. Nous sommes aujourd'hui déjà le 7 mars. Dans l'éphéméride, en 1876, c'est Alexander Graham Bell qui obtient aux États-Unis un brevet d'invention pour le téléphone en 1876. C'était Bell. Ring my bell.
Ah oui.
Ring my bell. Voilà, c'était donc Alexander Graham Bell. Et en 1926, donc on est 50 ans après, il y a la première conversation téléphonique transatlantique qui existe entre New York et Londres. C'était également un 7 mars. Beaucoup plus proche de nous, il y a 4 ans, l'annonce de la découverte de GNZ-11. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, c'est la plus lointaine galaxie connue de notre univers. Elle a été découverte il y a donc pile 4 ans. Au niveau de l'éphéméride pour les naissances, il est né le 7 mars 1765 à Chalon-sur-Saône. C'est le français Joseph Nicéphore Niépce qui est un ingénieur français connu comme étant l'inventeur de la photographie, appelé alors procédé héliographique. Il est aussi l'auteur de la plus ancienne prise de vue qui existe et aussi l'auteur du pyréolophore qui est le premier moteur à combustion interne du monde. Joseph Niépce, c'est un nom qu'on connaît un petit peu parfois. Il y a des fois des rues qui ont encore son nom de cet ingénieur français, inventeur de la photographie. Au niveau des décès, mort le 7 mars 1809 à Paris, un autre français, c'est Jean-Pierre François Blanchard, aéronaute français qui va s'illustrer dans la conquête des airs en ballon, notamment la première traversée de la Manche en ballon. Nous sommes le 7 janvier 1785 à l'époque. Jean-Pierre François Blanchard, décédé donc un 7 mars. Il n'y a pas de journée internationale quelconque aujourd'hui. Il n'y en a pas tous les jours, il faut le savoir, ou alors c'est totalement anecdotique, mais au niveau international, ça n'existe pas. Tu ferais, toi, comme ça, une traversée de la Manche en ballon?
Non.
Ça
a le mérite d'être clair.
mais je suis comme toi, il est quand même assez téméraire à l'époque, oui. Hein, parce que c'est la première. Maintenant, c'est quand même un peu plus maîtrisé, la technologie, tout ça, on connaît. Mais alors lui, c'est le premier qui le fait en 1785. Et il dit, tiens, je vais traverser la Manche.
Peut-être qu'il savait très bien nager et qu'il savait qu'il arriverait à rejoindre un côté ou l'autre si jamais il tombait.
C'est pas idiot, ça.
Je sais pas. Non, ça doit être quand même très dangereux. Parce qu'on a vu tous ceux qui voulaient s'envoler aussi avec tous les avions de fortune au démarrage. Il y a quand même eu des ratés. Hein.
Il y a quand même eu des ratés. Donc c'est pour ça, bravo à lui d'avoir inventé cela, mais surtout d'avoir eu, réussi, je dirais... Ouais. La force et le courage de le faire. Je ne t'emmène pas à travers la Manche, mais Anne Fleur nous emmènera tout à l'heure à Auckland pour sa rubrique InnoCity. On l'écoutera dans le cours de cette émission. Voilà, grosso modo, un petit peu le programme de cette émission qu'on vous propose, Carole et moi-même aujourd'hui. Carole, c'est toi qui démarres pour nous parler de quoi ?
De signal extraterrestre.
Ah, enfin.
peut-être de vie extraterrestre. Non, là, je risque de vous décevoir. On espère, en tout cas. Il y a des recherches qui sont menées, des mises en ligne de données dans l'espoir de détecter une vie extraterrestre, la preuve que nous ne sommes pas seuls dans l'univers.
Et ça a fait beaucoup parler il y a quelques jours, il y a eu énormément d'articles sur ce phénomène, on t'écoute.
Alors, moi j'ai choisi de relater un article, extrait donc, de Science et Avenir qui date de fin février et de parler donc, du projet Breakthrough Listen qui depuis 2015 s'attelle à mettre l'univers sur écoute afin d'y détecter les signaux éventuels d'une autre forme de vie intelligente. Il y a donc une nouvelle salve de données plus colossale que jamais, qui a été mise à la disposition du public par l'Institut SETI mi-février. Alors, avis aux amateurs, hein, peut-être qu'il y en a au sein de nos auditeurs, tout particulièrement ceux qui ont pas mal de temps devant eux, puisqu'il y a près de 2 pétaoctets d'émissions radio en provenance de la région centrale de notre galaxie qui ont été mis en ligne avant même d'avoir été passés au tamis par les astronomes. Cette moisson de données a été récoltée dans le cadre donc, de l'initiative Breakthrough Listen. C'est l'enquête la plus complète en fait, jamais réalisée sur les émissions radio depuis les confins de la Voie lactée. Un programme dont le lancement avait été soutenu en 2015 par le célèbre physicien britannique Stephen Hawking. Donc ces données, qui sont brutes pour la plupart, elles ont été recueillies dans le but d'y repérer des technosignatures susceptibles de trahir la présence d'une vie extraterrestre. Donc là, on se dit déjà, c'est quand même un petit peu technique. Donc c'est la seconde salve d'enregistrement livrée dans le cadre de ce programme, après la publication en juin 2019 d'un premier bilan relatif à des milliers d'heures d'observation sur des milliards de canaux de fréquences. Malheureusement, rien n'était ressorti de ces écoutes après leur passage au peigne fin. Cette fois-ci, c'était par les chercheurs du centre de recherche SETI. Donc SETI, ça veut dire Search for Extraterrestrial Intelligence de l'Université de Californie, donc à Berkeley. Donc là, c'était des professionnels, mais là, on se dit, on diffuse encore. Il y avait déjà des données mises à disposition du public. On se dit, on en diffuse encore plus. Les chercheurs, eux, ne baissent pas les bras. L'administrateur du projet, Matt Lebowski, dans un communiqué, déclare « Depuis la première publication de données l'année dernière, nous avons doublé la masse d'informations accessibles au public. Nous espérons que ce nouvel ensemble révélera quelque chose de nouveau et d'intéressant, qu'il s'agisse de la présence d'une autre forme de vie intelligente dans l'univers ou d'un phénomène astronomique naturel encore inconnue. » Alors, la moitié de cette nouvelle série de données, qui se concentre cette fois sur des fréquences comprises entre 1 et 12 GHz, elle a été récoltée par le radiotélescope Parkes de Nouvelle-Galles du Sud en Australie. L'emplacement de ce dernier dans l'hémisphère sud en fait un instrument privilégié pour balayer l'ensemble du disque galactique et son centre, où les étoiles se font très denses. Pourquoi cette stratégie ? Andrew Siemion, chercheur principal du projet, estime que si une civilisation avancée voulait placer une balise quelque part, le centre galactique serait un bon endroit pour le faire. C'est vrai, après tout, quoi de mieux que le trou noir supermassif qui règne pour disposer de grandes quantités d'énergie, à condition que cette civilisation ait appris à maîtriser ces monstres à valeur de toute matière ou rayonnement. Donc bon, on fait quand même certaines hypothèses de base. L'autre moitié des écoutes a été réalisée à l'aide du radiotélescope Green Bank en Virginie-Occidentale, qui est actuellement le plus grand radiotélescope orientable du monde. Et enfin, on a également exploité un télescope optique, l'Automated Planet Finder, construit et exploité donc par l'Université de Californie. Alors, un petit ensemble de données déjà a fait l'objet d'une présentation plus précise justement en février lors de la réunion annuelle de l'Association américaine pour l'avancement des sciences. Donc l'American Association for the Advancement of Science, c'est l'une des plus anciennes et plus grandes fédérations d'organisations scientifiques au monde. En faisant appel à la méthode des transits, qui consiste à guetter les baisses de luminosité synonymes du passage d'une planète devant son étoile hôte, les chercheurs se sont concentrés sur 20 étoiles proches de notre système solaire. Toutes avaient la particularité d'être alignées avec le plan de l'orbite de la Terre, de sorte qu'une civilisation extraterrestre qui peuplerait l'une de leurs exoplanètes verrait la Terre passer devant le Soleil si elle disposait de télescopes. Alors oui, il faut suivre un peu le raisonnement et on s'interroge justement, et donc c'est ce que font les chercheurs de l'équipe, et si une autre civilisation regardait notre Soleil ? Pour rechercher les signaux radio en provenance d'exoplanètes en orbite autour de ces 20 étoiles, les chercheurs se sont appuyés sur le télescope donc Green Bank et ont encore réduit la voilure en se concentrant uniquement sur les fréquences situées entre 4 et 8 GHz. Il n'y avait jamais eu de recherche ciblée dans cette région du ciel. C'est ce qu'a fait savoir la chercheuse Sophia Sheikh, qui a passé donc au crible les milliards de fréquences dans l'espoir d'y détecter des signaux forts. Après avoir nettoyé de leurs interférences humaines près d'un million de pics radio, l'astronome a fini par réduire le nombre de données intéressantes à une centaine à peine. Malheureusement, cette fois encore, aucune technosignature ou bruit de fond incompatible avec des événements astrophysiques naturels n'en est encore ressorti. Pour les astronomes œuvrant sur le projet, hein, il est impossible de tirer des conclusions pessimistes de ce nouveau bilan. Pour eux, certes, ils ont trouvé donc aucun extraterrestre, mais il faut garder en tête qu'ils ont établi des critères très rigoureux dans leur recherche et d'une espèce donc qui soit technologiquement développée. Donc on peut passer en fait à côté de tout un tas de vies extraterrestres, mais qui n'auraient pas les moyens technologiques hein, de faire parvenir des signaux jusqu'à nous. Alors il souligne également qu'il ne s'agissait ici que de données en provenance d'une infime partie de l'univers, dans une partie du spectre radio très limitée.
C'est vrai que ça a beaucoup fait parler, évidemment, parce que on, toujours tout ce qui est lié à une potentielle vie extraterrestre fait toujours parler dans les médias, quels qu'ils soient. Moi, je suis toujours fasciné par cette idée qu'on considère que les extraterrestres, s'ils existent, vont être inférieurs par rapport à nous.
Et, ou là, là, pour le coup, quand même développé, enfin, bah, peut-être supérieur quand même.
On a toujours, enfin, très souvent, cette image-là, en fait, que l'on a dans notre subconscient en disant... est-ce qu'ils vont réussir à avoir les capacités à communiquer avec nous? Mais alors, ça se trouve, ils nous connaissent depuis déjà longtemps. Et ça se trouve, ils ont dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est comme si nous, on découvrait des pauvres bactéries sur une planète éloignée. Tu penses bien,
on
ça intéresserait quelques scientifiques. Alors, le reste de l'humanité s'en foutrait totalement. Ça se trouve, c'est peut-être la même chose. Ils nous considèrent peut-être comme des vulgaires petites microbes totalement insignifiants. Et il y a déjà longtemps qu'ils ont regarder ailleurs, va savoir, j'en sais rien, moi je trouve toujours,
Ce
postulat de départ un petit peu dommage en fait, il faut penser à tout.
Mais enfin, moi je trouve qu'il y a de plus en plus justement de films ou de représentations dans toute la pop culture d'extraterrestres qui quand même justement seraient supérieurs et récemment j'ai vu plusieurs films. Hein.
C'est vrai qu'on commence, ça commence à évoluer un petit peu sur cet aspect-là, oui. Parce qu'on voit que la technologie aussi évolue énormément et on se dit ben, peut-être que chez eux, ils ne sont peut-être pas si idiots que ça. Et donc, mais effectivement, je trouve toujours intéressant, on ne sait pas
du tout. Et puis, j'étais fan, je le rappelle quand même, parce que, attention, ça fait longtemps qu'il y a quand même des évocations de vie extraterrestre. Moi, j'étais fan de Stargate SG-1. Voilà, un aveu aujourd'hui. Je ne sais pas si tu regardais.
Allongez-vous sur le divan et on va parler de votre vie, Carole.
Non, et dans cette série qui était quand même super,
tu ne connais pas ? Pas du tout.
En fait, donc c'est évidemment, on suit les héros qui font partie d'une équipe de recherche en lien avec l'armée américaine, mais ils ont tous des rôles différents. Hein. Et en fait, ils découvrent une porte en pierre, mais qui en fait est reliée à différentes planètes, différents mondes, du coup plus ou moins éloignés de la Terre. Et en fait, ils se rendent compte qu'il y a plein d'autres civilisations, plein de vies extraterrestres. Donc après, c'est beaucoup plus complexe que ça. Mais justement, alors on arrive des fois sur des planètes plus développées que la Terre, des fois non. Et il y a notamment en fait un peuple, hein, c'est un petit peu les méchants de la série, mais qui sont plus développés que les gens de la Terre et que les hommes.
Et oui, parce que s'ils sont plus développés, ils sont donc plus méchants.
Et oui aussi. Oui, par contre, je dirais que c'est souvent ça, voilà,
le
problème.
Mais sinon, tu peux pas en faire un film.
Oui.
S'ils sont trop gentils, bah c'est gnangnan, ça sert à rien.
Mais moi, je te conseille, du coup, même si ça a dû un peu vieillir, Stargate.
Je sais que ça existe.
C'est mon conseil.
Je sais que ça existe, mais je n'ai jamais regardé Stargate. Je sais, j'ai des défaillances, il m'arrive parfois. Je reste un homme. J'ai envie de te parler de ce microbiologiste Derek Lovelay. Il a découvert des bactéries d'un genre particulier qui s'appelle Geobacter. Bon, c'est pas le plus intéressant dans l'affaire. Ces bactéries, elles se trouvaient dans la boue de la rivière Potomac et il a découvert ça en 1987. Eh bien, il souhaite quand même exploiter les capacités hors du commun de ces bactéries parce que ce genre de bactéries peuvent créer des grands filaments pleins de protéines qui vont être conducteurs d'électricité. Et ces petits filaments qu'on va appeler des nanofilaments parce que ça reste quand même très, très fin et totalement invisible à l'œil nu, peuvent atteindre quand même 20 micromètres de long. Alors, bien sûr, là, c'est une notion d'échelle qu'il faut avoir. C'est-à-dire que pour nous, 20 micromètres, c'est totalement microscopique, on ne voit rien. Mais c'est quand même assez long parce que c'est beaucoup plus que la taille de la bactérie elle-même. Donc, ces nanofilaments ont quand même une certaine importance. importance. Et convaincu du potentiel électrique de ces fameux nanofilaments, eh bien, il a publié plusieurs travaux basés justement sur ces fameux nanofilaments. Et la dernière étude date de février dernier. Il y a un nouveau dispositif élaboré avec un de ses collègues d'université du Massachusetts qui a fait l'objet donc d'une publication dans la grande revue Nature. Alors, si c'est dans Nature, c'est que du coup, c'est quand même pas n'importe quoi. Et le concept permettrait de générer un courant électrique stable grâce à l'humidité présente dans l'atmosphère. On serait donc dans l'idée de créer un courant électrique à partir de l'air, et ça pourrait être possible. Cet appareil qui est appelé AirGen, Air pour Air et Gen
Generation.
Pour Generation, fonctionne donc ainsi. C'est un film de seulement une dizaine de micromètres d'épaisseur qui sont composés de ces fameux nanofilaments de protéines qui est donc produit par cette bactérie dont le nom est assez particulier, qui est Geobacter sulfuridescens. Et on va connecter tout ça à deux électrodes. Il y a une électrode qui est en contact avec tout le dessous du film de protéines, tandis qu'une deuxième électrode n'est en contact avec une partie du dessus. Et ce fameux film protéique va absorber l'humidité qui est présente dans l'air. Et les pores qui vont être présents entre les nanofilaments vont permettre une conductivité électrique. Et la chimie spécifique de ces protéines qui existent, qui sont des protéines conductrices. Bref, tout ça va permettre de créer un courant électrique stable entre les deux électrodes. C'est totalement fascinant et totalement intéressant. Les scientifiques ont ensuite mesuré ce courant électrique. Alors, la tension allait de 0,5 volts. Ok, c'est pas énorme, bien évidemment, mais nous produisons quand même de l'électricité à partir de l'air. Et cette solution, AirGen, génère donc une énergie propre 24 heures sur 24. C'est ce qu'explique Jun Yao de l'Université du Massachusetts, qui a fait bien sûr partie de cette équipe. Le courant électrique créé par le dispositif actuel n'est donc pas suffisant, bien sûr, pour recharger notre téléphone portable, parce qu'après tout, c'est ça qui est le plus important. Mais selon les scientifiques, on pourrait connecter plusieurs dispositifs AirGen, et ça pourrait augmenter la tension et le courant électrique pour permettre d'alimenter des petits appareils. À l'avenir, les scientifiques aimeraient mettre au point des patchs AirGen qui seraient capables d'alimenter par exemple des montres connectées, qui rendraient ainsi les batteries polluantes totalement inutiles. C'est une petite trouvaille, c'est une petite découverte dans une grande revue scientifique qui est énormément prometteuse, je trouve, parce que ça peut déboucher sur des choses totalement fascinantes grâce à ce microbiologiste Derek Lovelay qui, un jour, dans les années 80, a trouvé une espèce de bactérie dans la boue de la rivière Potomac.
Comme quoi.
Ça te fait rêver, ça aussi.
Exactement, oui, tout à fait.
Je sais bien que ça te fait rêver. Est-ce qu'on part à Auckland ?
Oui, avec grand plaisir.
Tiens, on va partir tout de suite à Auckland grâce à Anne Fleurino City. Elle a donc choisi Auckland cette fois-ci pour sa rubrique. Que s'est-il passé à Auckland ? Qu'est-ce qui a été créé ? C'est à toi, Anne Fleur.
Good morning Compiègne, bonjour Jean-Noël, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour repartir dans une des régions du monde que nous allons découvrir ensemble. Alors aujourd'hui j'ai décidé de mettre cap au sud et même carrément au sud puisqu'on va avoir la tête en bas. On est parti direction la Nouvelle-Zélande et plus particulièrement sa capitale Auckland. Alors est-ce que vous le saviez, la Nouvelle-Zélande c'est un pays qui fait à population, fait à peine 4 millions d'habitants. Donc à peine finalement la population de Paris. Et ouais, en fait, la Nouvelle-Zélande, c'est un des pays les moins peuplés au monde. Et alors, puisqu'on parle de la population de Nouvelle-Zélande, un petit point qui est quand même un petit peu rigolo avant de parler de ses inventions, eh bien, c'est que de toute la population de la Nouvelle-Zélande, seulement 5% des créatures qui y vivent sont humaines. Voilà, ça vous met un petit peu dans le bain. Mais la Nouvelle-Zélande est également connue pour être le tout premier pays au monde à avoir donné aux femmes le droit de vote en 1893. Eh oui, messieurs, dames. Bon, assez parlé de toutes ces petites anecdotes, parlons directement d'invention. Alors, si je vous dis Nouvelle-Zélande, moi personnellement, je sais que je ferme mes yeux et je pense à des paysages juste à couper le souffle. Je pense à la montagne, à la mer, à une île, enfin à des îles, Et en fait, c'est assez rigolo parce que cette première invention, eh ben, ça colle bien un peu avec l'image que je me fais de la Nouvelle-Zélande. Eh bien, sachez, messieurs, dames, que les Néo-Zélandais ont inventé le saut à l'élastique. Et finalement, c'est vrai, ils ont les plus belles vues, les plus belles cascades, les plus belles falaises d'où se jeter, quoi. Et finalement, bah, voilà, c'est pas si surprenant que les Néo-Zélandais soient complètement accros aux sports extrêmes. Et alors, pour la petite histoire, donc, ça a été inventé dans les années 80, c'est relativement récent, par un certain AJ Hackett, qui avait regardé plein de vidéos d'un groupe qui s'appelle Dangerous Sports Club, donc le club des sports dangereux. Et donc, c'était un documentaire sur des personnes qui développaient et qui expérimentaient, quoi, qui testaient un peu plein de sports extrêmes que l'on connaît aujourd'hui. Le saut à l'élastique, c'était l'un d'entre eux. Et en fait, du coup, AJ, il a lancé une étude avec Henry Van H, je ne sais pas trop comment on dit ça encore, il a lancé une étude donc qui permettait de connaître et donc de se rassurer, je pense aussi, la résistance des élastiques, donc de ces fameuses grandes cordes élastiques, pour pouvoir faire ce saut à l'élastique. Et aujourd'hui, donc, il paraîtrait que le saut à l'élastique, ce soit une des activités les plus pratiquées quand on va en Nouvelle-Zélande. Bon, et alors continuons notre tour de Nouvelle-Zélande avec des inventions, cette fois-ci peut-être un petit peu plus sérieuses. La physique nucléaire. Alors la physique nucléaire, on la doit à un certain Ernest Rutherford, qui est en fait connu comme un des grands physiciens et donc le père de la physique nucléaire depuis Michael Faraday. Donc monsieur Ernest Rutherford a commencé à travailler en 1902 sur une théorie qui aurait à faire avec donc la séparation des atomes. Jusqu'alors, en fait, on croyait que les atomes étaient plus petites particules de l'univers, mais donc ce néo-zélandais a prouvé en fait que c'était pas le cas, et il a gagné d'ailleurs le prix Nobel de chimie en 1908. Bravo Ernest. Une autre invention un tout petit peu plus récente, c'est la seringue hypodermique jetable. On la doit à Colin Murdoch, qu'il a inventé à Timaru, donc en Nouvelle-Zélande, en 1956. Finalement, c'est complètement dingue de se dire que comment est-ce qu'on faisait en fait avant. En fait, Colin Murdoch, c'était donc un pharmacien et un vétérinaire, même pas un médecin, qui était très inquiet en fait par les chances d'infection et donc de partage de virus qui étaient causés par la réutilisation des seringues. Et donc, il a commencé à travailler sur un nouveau concept, que ce soit donc une seringue réutilisable en plastique qui pourrait remplacer celle faite en verre. Et en fait, pour la petite histoire, comme c'est souvent le cas en recherche, au début, son projet a été un petit peu très difficile à mettre en place puisque personne ne voulait le financer, et finalement après plusieurs années où il a littéralement pas lâché l'affaire, il a réussi à se faire financer et à devenir à lancer un projet qui a finalement vraiment changé le monde et notre vision de la médecine moderne. Donc bravo pour sa persistance. Une des dernières inventions dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est juste parce que je trouve ça m'a fait un petit peu rire, c'est une invention qui finalement n'est pas si récente. Moi je l'aurais attribué aux années 50. En fait, c'est quelque chose qui date de 1890. J'ai nommé le café instantané. Vous savez, cette poudre sur laquelle on va pouvoir mettre de l'eau chaude qui nous tord un petit peu des fois le ventre parce que c'est pas super super bon, mais c'est vachement pratique quand on est en vacances ou sur la route par exemple. Donc on la doit à un certain David Strang, et ça nous vient donc de Invercargill, pardon pour la prononciation, donc en Nouvelle-Zélande. Et alors, les Américains aiment bien dire que ça vient de chez eux, puisqu'en fait, ça a été utilisé sous la forme d'un gâteau pendant la guerre civile américaine en 1890. Mais en fait, non, c'est Monsieur Strang qui, lui, l'a inventé et d'ailleurs breveté sous forme de boisson. Depuis, le Japon a énormément travaillé dessus pour en parfaire sa forme et son goût. Et surtout, notamment pendant la Première Guerre mondiale, c'était donc une boisson qui était distribuée aux soldats pour les motiver, pour les aider. Et très rapidement, donc, le café instantané, c'est devenu pas une révolution, quoi, parce qu'on pouvait avoir un café en juste 2 secondes et se revitaminer de manière un petit peu artificielle. Mais voilà. En tout cas, je dis merci à Monsieur David Strang parce que pendant mes études, ça m'a bien servi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce petit tour de la Nouvelle-Zélande vous aura plu. Je vous souhaite une très très bonne fin de journée, un excellent week-end, et je vous dis à la semaine prochaine.
Merci Anne Fleur pour InnoCity, bien sûr, sur l'antenne de Graphite pendant cette émission Biotine. Biotine, tous les samedis entre 12h et 13h, vous permet de vous tenir informé de l'actualité scientifique, technique, médicale. On parle d'espace, on parle d'animaux, on parle de fleurs, on parle d'informatique, on parle d'objets connectés, on parle de technologie. Et là, on parle de...
Ah pardon, ah ben, excuse-moi. C'est comme d'habitude, je ne peux pas parler, non, je ne peux pas m'exprimer.
Je ne sais pas pourquoi, mais c'est totalement, le pire c'est que c'est totalement involontaire. Parce
bien
que,
sûr, c'est ce qu'on dit.
C'est peut-être pour subconscient qu'il s'exprime de cette façon. Donc
on va parler d'un de mes sujets de prédilection, on va parler d'éthologie.
Ah, rappelle-nous ce qu'est l'éthologie.
L'étude du comportement, des comportements, l'étude des mœurs. Donc c'est la science des comportements.
La science des comportements.
Et évidemment, on étudie beaucoup les comportements sur le modèle animal, même si l'éthologie humaine existe. Et on va donc s'intéresser à nos chers amis les animaux, cette fois-ci donc aux oiseaux et plus particulièrement aux mésanges. On fait beaucoup, beaucoup d'expériences hein, sur les oiseaux qui sont passionnantes. Et là, ce sont des chercheurs qui se sont donc intéressés à l'apprentissage des mésanges et se sont rendus compte que c'était possible, même en regardant la télé. Alors, si on crée des émissions de télé-réalité pour mésanges, ça pourrait marcher, puisqu'en fait, en regardant des vidéos de leurs congénères en train de manger, eh bien, elles pourraient réaliser certains apprentissages. Donc, on va détailler ça. Il faut savoir déjà que pour adapter leur régime, les prédateurs doivent recueillir des informations sur la rentabilité des proies. Hein, on ne choisit pas n'importe quoi, on sélectionne.
Ah bah. Bien sûr.
Évidemment. Alors, en plus d'apprendre des rencontres avec les proies elles-mêmes, c'est-à-dire que forcément, en capturant les proies, en les mangeant, elles se rendent compte si c'est bon, si c'est profitable, si c'est nourrissant. Des études ont montré que certains prédateurs peuvent en apprendre davantage en observant les expériences négatives de leurs congénères ou même d'autres espèces. Mais cependant, on ignore en fait encore beaucoup de choses sur la manière dont ils utilisent ces informations sociales. Donc, pour étudier ces phénomènes, Lisa Amalainen et son équipe de l'université de Cambridge se sont tournés vers les mésanges bleus, hein, de leur nom donc latin cyaniste caeruleus, et les mésanges également charbonnières qu'on connaît bien aussi, Parus major. On fait beaucoup d'expériences sur les mésanges charbonnières, deux espèces qui s'attaquent sensiblement aux mêmes proies. Alors, au cours de cette expérience, les chercheurs ont montré une vidéo à un groupe de 24 oiseaux, 12 de chaque espèce. Et dans ce film, en fait, on présentait à une mésange bleue ou à une mésange charbonnière une proie désagréable. Pour les rendre impropres, les chercheurs en fait, ont aspergé ces proies d'une solution amère et les ont marquées d'un carré noir. Comme prévu, les oiseaux filmés ont réagi avec dégoût en secouant ou en s'essuyant la tête. Les oiseaux qui ont regardé les vidéos ont ensuite été invités à passer à table. La proposition fut alors la même, soit des proies désagréables, soit des proies habituelles, donc qui n'avaient pas été modifiées par les chercheurs. Le but était de voir si elles avaient appris des mésanges filmés ou non. Pendant ce temps, on a proposé, bien sûr, pour faire le témoin de l'expérience, hein, ces mêmes options alimentaires à un autre groupe de 24 oiseaux qui n'avaient pas regardé les vidéos. Et donc, quels sont les résultats? Eh bien, il est vite ressorti que les oiseaux qui avaient regardé les vidéos mangeaient moins de proies désagréables que les autres. On n'a pas le détail des chiffres, mais on imagine que c'était suffisamment significatif pour pouvoir le déduire. Ce type d'apprentissage par imitation est forcément un atout dans la nature, parce que la chercheuse nous explique que les mésanges bleus et charbonnières se nourrissent ensemble et ont un régime alimentaire similaire. Mais elles peuvent différer dans leur hésitation à essayer de nouveaux aliments. En observant les autres, cela peut réduire le temps et l'énergie qu'elles investissent dans l'essai de différentes proies, mais aussi les aider à éviter les effets néfastes de manger des proies toxiques. Donc apparemment, en effet, ça fonctionne, c'est mis en évidence et ça fonctionne même si ce message passe par donc, des vidéos. Alors, ce type d'apprentissage, il est bénéfique pour les oiseaux, mais dans la nature, en fait, il est également bénéfique pour les proies. Donc, je m'explique. De nombreuses espèces d'insectes ont en effet développé des marquages visibles et des défenses chimiques au goût amer pour dissuader les prédateurs. Toutefois, donc, avant que bien sûr les prédateurs, donc en l'occurrence là, les oiseaux, n'apprennent à associer les marques, parce que souvent c'est des insectes du coup qui sont assez visibles en termes de couleur, hein, à ces goûts rebutants, eh bien les insectes à ce moment-là courent un risque plus élevé de se faire manger parce qu'ils se distinguent. Donc si les oiseaux sont effectivement capables d'évaluer un risque en observant simplement un congénère, ça signifie que les proies qui développent ces types de signaux d'alerte ont plus de chances de survie. Donc pour lire l'ensemble des détails de l'étude, eh bien vous pouvez aller chercher la revue Journal of Animal Ecology, très intéressante revue.
Tu nous parles d'oiseaux, tu nous parles de mésanges, tu nous parles d'éthologie. J'ai envie de poursuivre, et pour te faire honneur, Carole, avec cet article dans Futura Science. On a tous remarqué, bien sûr, quand on se promène, de voir ces oiseaux qui chantent à notre passage lors d'une balade en forêt, par exemple.
En fait,
ils ne sont pas là pour siffler les belles filles. Ils sont là tout simplement pour signaler notre présence aux autres animaux. Et ce système alerte aussi de la présence d'un prédateur. Et ce système possède un petit peu ses subtilités parce que les oiseaux ne transmettent pas de la même façon les informations selon leurs sources. Et comme nous, ils se méfient un peu des rumeurs. Et là, c'est une étude parue dans la grande revue internationale Nature, là encore, une étude menée auprès de deux espèces. L'une concerne la sittelle et l'autre, la mésange, qui a permis de mettre en lumière justement ce système de communication sophistiqué où la fiabilité de l'information est primordiale. Dans une communauté de plusieurs espèces d'oiseaux, la mésange tient le rôle de surveillant et grâce à ses, on va appeler ses houspillages, eh bien, elle va prévenir les autres oiseaux, de la présence d'une menace. Et les sons produits informent les autres de la taille, de la localisation de la menace. Les scientifiques ont étudié les différences entre les sons produits par les sittelles connues pour être bavardes à la suite d'une menace directe ou indirecte. Et donc, dans leur expérience, la menace directe, elle est matérialisée par la diffusion d'un enregistrement des cris de deux rapaces qui sont des prédateurs, des mésanges et des sittelles. Et la menace indirecte, elle est matérialisée par la diffusion du cri d'alerte de la mésange qui est face à ces mêmes prédateurs. Donc, première situation, enregistrement des rapaces. Deuxième situation, enregistrement de la mésange face à ces rapaces. Et, surprise, on se rend compte que l'oiseau sait faire la différence entre ces deux types de signaux. Quand elle entend le cri de son prédateur principal, qui est la chevechette des rocheuses,
Très connu.
Le nom scientifique, c'est Glaudicum gnoma, bien sûr, pour la placer dans une conversation. Donc, quand elle entend le cri donc, de ce prédateur, la sittelle émet un cri saccadé et aigu où chaque son ne dure pas plus de 0,1 seconde. L'oiseau peut lancer l'alerte près de 120 fois par minute. Et quand c'est le cri du grand-duc d'Amérique, un prédateur plus rare, l'oiseau émet un cri plus grave où chaque répétition dure environ 0,15 secondes également, c'est quand même assez rapide. Et quand il s'agit d'une menace indirecte, donc je vous rappelle, la menace indirecte, c'est quand on entend l'oiseau, le cri de l'oiseau face à un prédateur, eh bien la sittelle émet un son intermédiaire entre les deux. Elle transmet tout de même l'information, mais avec un peu plus de précaution, entre guillemets, ce que nous dit l'article, un petit peu plus de précaution que si la menace était vraiment directe et réelle. Donc il y a une nuance qui est proposée parce que elle entend le cri effrayé, enfin de l'oiseau effrayé, pardon,
oui,
mais elle l'a pas vu.
C'est vraiment super intéressant.
Et les sittelles font donc attention à la source des informations. Elles modulent leur réaction en fonction de celle-ci. Mmh. Elles se méfient des rumeurs. Mon Dieu, je connais certains qui pourraient prendre de la graine, c'est le cas de le dire. Mais voilà, je trouvais un article aussi intéressant. Parce qu'il y a une vraie subtilité dans la nature, plus que chez nous.
Et on découvre, oui, souvent qu'en fait, c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on pense et qu'il y a beaucoup plus, de gradation, pareil, de subtilité, oui, de messages. En fait, c'est un vrai langage qu'ils ont développé sur une autre modalité, mais oui, passionnant.
Passionnant, et c'était en hommage à l'éthologue, Carole.
Merci beaucoup, ça m'a fait très plaisir.
Je t'avais fait découvrir la semaine dernière Ali Danel avec son album Sur mon île, très sympa. Ali Danel a un autre album et il est en collaboration avec Clemson. Et là, c'est Les Déboires, ça sera, je pense, à peu près dans la même tonalité. C'est sur l'antenne de Graphite, à tout de suite.
Choisir, laisse-moi la brune qui danse près du bar. Ok, je te vois bien venir, danse un peu et va me chercher à boire. Je suis là pour t'aider mon frère, quand tu as trop de choix le soir. Je sais pourquoi t'es là mon frère, danse un peu et va me chercher à boire. On s'amuse comme on peut, mais on sait qu'à la fin, ce sont elles qui choisissent. Laquelle choisir, laisse-moi la blonde dans le mini-bar. Ça tourne trop pour moi, mon frère, et il commence à se faire un peu tard. Si tu ne sais pas laquelle choisir, laisse-moi la blonde mini-bar. Ça, tu l'as déjà dit, mon frère, tu devrais peut-être arrêter de boire. On s'amuse comme on peut, mais on sait qu'à la fin, ce sont elles qui choisissent. Ce sont elles qui choisissent.
Graphite 94.9 FM.
Décidément, c'est une émission où il y a plein d'hommages pour toi, Carole. Un petit article d'éthologie. Et là, Ali Danel, qui finalement est d'une lucidité, comme tu disais, totalement exemplaire.
Oui.
Parce que c'est elle qui choisisse, quoi. Enfin, je veux dire,
voilà. Malheureusement, ça ne résout pas tous les problèmes, mais sa chanson, je trouve, oui, ses paroles sont très justes.
Ali Danel sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h. On a fait le point sur l'actualité scientifique. On a parlé d'animaux, mais là, on va peut-être aller un petit peu plus loin, peut-être aussi dans le temps, peut-être, hein, Carole.
On va revenir à l'Antiquité.
Ah, mon Dieu.
Et on va parler d'une actualité qui a défrayé la chronique ces derniers temps. Donc, je relaye un article de Science et Avenir qui date donc du 20 février et qui nous parle du tombeau supposé de Romulus. L'aurait-on découvert au cœur de la ville éternelle, hein, à Rome? Des archéologues ont découvert en fait une tombe qui recèle un sarcophage et ils se demandent justement si ça pourrait avoir un lien avec Romulus, le fondateur mythique de la ville. Alors la presse italienne en a fait ses gros titres. À Rome, c'est une découverte qui est décrite comme exceptionnelle forcément par la directrice du parc archéologique du Colisée, Alfonsina Russo. Et ça a été réalisé sur le Forum romain à proximité du complexe Curia Comitium, c'est-à-dire au cœur de l'antique cité. L'ancienne Curia, ou Curie, où se réunissaient les sénateurs, et le Comitium, où se rassemblaient les habitants de Rome au début de la République, donc c'est au VIe siècle avant notre ère. Alors le tombeau mis à jour, il contiendrait une sorte d'autel et un sarcophage en tuf d'environ 1,40 m de long, retrouvé vide. Oui, c'est dommage, mais bon, d'après les premières informations livrées, l'hypogée, datée du VIe siècle avant Jésus-Christ, était creusée à même la roche, sous l'escalier d'entrée de la Curie. Donc, pour un petit peu se représenter de quoi il s'agit, je vous conseille d'aller faire un tour sur Internet pour justement regarder les photos. Parce que là, on voit les différentes photos de la découverte, on voit à quoi ça ressemble, on voit en fait, donc il parle d'hypogée, c'est-à-dire l'endroit où ça a été creusé, où on trouve l'entrée et derrière le tombeau. Alors, le tombeau mis à jour, hein, eh bien, il contient, on l'a dit, une sorte d'autel. Et il est situé donc à quelques mètres du célèbre Lapis Niger, qui là est une stèle en tuf également, exhumée sur le Forum en 1899. Et les Romains, en fait, associaient déjà cet endroit à Romulus. Rappelons que la fondation de Rome, soi-disant par Romulus, elle remonterait à 753 avant Jésus-Christ ou entre 750 et 700 avant Jésus-Christ. Bon, globalement, ça situe quand même la période. Selon l'historien Alexandre Grandazie, qui est l'un des meilleurs spécialistes de la question. Alors, la légende, elle veut que la cité ait été fondée par Romulus après que celui-ci ait tué son frère Rémus, des jumeaux qui donc avaient été élevés par une louve. La stèle du Lapis Niger, datée du 6e ou 5e siècle avant Jésus-Christ, est couverte des plus anciennes inscriptions latines connues, dont certaines font référence à un roi. Donc on retrouve justement le mot rex. On révise un petit peu notre latin en même temps.
Ça nous fait du bien de réviser un peu de latin.
Alors, mais déjà à l'époque, les habitants de Rome avaient oublié la signification originale du sanctuaire, créant plusieurs légendes discordantes. Une parmi d'autres indiquait que le lapis niger marquait la tombe de Romulus, le premier roi de Rome, dont les historiens ne s'accordent pas sur l'existence réelle ou légendaire, on le rappelle. Pas étonnant dès lors que la mise à jour d'un tombeau annoncé sur le forum ait enflammé les imaginations. Et bon, pour la plupart des gens, en fait, seul un personnage exceptionnel a pu être inhumé ou honoré à cet endroit. Alors, l'historien Yann Le Boeck, spécialiste du monde romain, reconnaît que sans fantasmer outre mesure, cette découverte est néanmoins intéressante. Il était en effet interdit d'enterrer quiconque à l'intérieur des limites de la ville. Pour autant, évoquer Romulus me semble audacieux. Pour Alphonsina Russo, elle, forcément, ce n'est pas un hasard si cet hôtel souterrain est placé près du lapis niger. Aux dernières nouvelles, il serait d'ailleurs question d'un cénotaphe, donc un monument à la mémoire de Romulus plutôt que d'une tombe à proprement parler. Donc, affaire à suivre, je pense qu'ils vont investiguer tout ça pour savoir exactement de quoi il s'agit. Mais on peut comprendre, c'est-à-dire que pour tous ceux qui ont déjà visité Rome et qui ont visité justement la partie du forum, on peut comprendre que découvrir encore des nouveaux éléments à cet endroit, c'est quand même bien passionnant sûr, et ça fait fantasmer sûr. Sur justement bah, toute cette célébrité qui aurait pu peut-être être enterrée là.
Je vais te parler de Gaël Musquet, qui est un spécialiste des ondes. Il avait montré il y a quelques temps comment on pouvait hacker facilement, prendre le contrôle, pour parler plus français, hacker une voiture et avec peu de moyens. Alors facilement, parce que les véhicules souffrent d'énormes carences en matière de sécurité. Et on peut dire que la cybersécurité est globalement ignorée par les constructeurs automobiles, hormis quelques exceptions, bien sûr. Ça, c'était l'expérience que Gaël Musquet avait fait. Eh bien, la question peut se poser du côté des satellites. Il semble que la sécurité ne soit pas non plus la priorité pour les acteurs du secteur. Pour leurs concepteurs, il restait jusqu'à il y a peu inimaginable que des personnes au sol puissent en prendre le contrôle. Et pourtant, il y a plusieurs tentatives d'attaque qui ont déjà eu lieu. Ce fut le cas à la fin des années 90, donc il y a déjà quand même un certain temps. Des pirates avaient alors réorienté les panneaux solaires d'un satellite pour les placer face au soleil. Cela avait donc détruit totalement la batterie. C'est encore arrivé en 1999 quand des pirates ont pris en otage des satellites Skynet contre rançon. Tiens, Skynet Terminator, non, ça me fait penser. En 2008, deux satellites de la NASA ont été contrôlés par des pirates pendant plusieurs minutes. Et dans ces cas de figure, le piratage avait eu lieu via des vulnérabilités présentes dans les systèmes des stations terrestre. Et malgré ces cas d'école, si la sécurité a été renforcée au sol, eh bien les liaisons satellitaires ne sont pas plus chiffrées qu'auparavant. C'est ce que souligne William Akoto, qui est un chercheur à l'université de Denver, qui met en garde contre l'absence de sécurisation des satellites. Mais aujourd'hui, ces piratages pourrait s'accentuer avec les lancements de grandes flottes de satellites permettant de faire rayonner Internet sur l'ensemble de la planète. C'est notamment l'intention de SpaceX avec le projet Starlink et la mise en orbite de 42 000 satellites au cours des dix prochaines années.
Oui, j'ai lu ces informations-là.
C'est
énorme.
Et pour réduire les coûts, ce sont des dizaines de milliers de microsatellites non sécurisés qui vont être lancés. C'est notamment le cas des petits CubeSat qui ne mesurent que 10 cm de large. À l'origine, il s'agissait d'une expérience éducative, mais aujourd'hui, ils sont nombreux à tourner autour de la planète. Le souci est que ce petit satellite à bas coût repose sur un assemblage d'éléments provenant de nombreux constructeurs. Ainsi, l'ordinateur de bord peut être constitué d'un simple projet ou un simple matériel, et la majorité des composants est accessible au grand public. C'est-à-dire que n'importe quel hacker patient peut étudier leur vulnérabilité. Pour couronner le tout, les logiciels employés reposent généralement sur de l'open source, donc des données totalement accessibles et libres de droit. Et là encore, les hackers pourraient insérer des portes dérobées pour infiltrer le satellite. En cas de prise de contrôle, le pirate pourrait très bien éteindre le satellite en déchargeant la batterie, ok. Il pourrait brouiller le signal, d'accord, pourrait le détourner et mettre éventuellement à mal des infrastructures critiques, les réseaux électriques, les réseaux de transport. Pire encore, lorsqu'un satellite dispose de propulseurs, il pourrait être possible de modifier l'orbite pour créer volontairement des collisions avec d'autres satellites et pourquoi pas avec la Station Spatiale Internationale. Si la sécurité reste le maillon faible, c'est en grande partie parce qu'en matière de satellites, il n'existe ni standards, ni normes de sécurité, encore moins de réglementation qui s'imposent aux sociétés commerciales. Autrement dit, l'espace reste encore une énorme zone de non-droit. Et donc, ce chercheur William Akoto essaye de tirer le signal d'alarme concernant ces satellites qui pourraient être piratés et qui pourraient être transformés en armes. C'est quand même assez étonnant qu'on se rende compte en 2020 que oui, c'est une menace et que c'est d'une accessibilité terrifiante.
Exactement. Alors, j'imagine quand même que certains commencent à se pencher sur la question. Mais il va falloir du temps. Et le problème, c'est qu'il y en a qui sont du coup déjà envoyés. Donc, je ne sais pas après quelles modifications on peut faire a posteriori, comme système de protection, etc. Mais oui, on imagine tout comme maintenant, parce qu'au départ, pareil, il n'y avait pas la sécurité réseau. Je pense, nous, à nos réseaux terrestres, il n'y avait pas la sécurité qui existe maintenant. On imaginera plus tard peut-être des annonces de Pôle emploi proposant des jobs de sécurité satellite, de responsable sécurité d'un ensemble de satellites. Ouais, non, mais en tout cas, il va falloir il va falloir en effet mettre après au point les systèmes qui permettent d'empêcher. Bien sûr, ça va être une course à l'armement des deux côtés, ceux qui veulent réussir à hacker et ceux qui veulent protéger les satellites. Et en fait, donc moi, j'avais bien suivi ces annonces avec les différents envois de satellites prévus. Les chiffres sont impressionnants, c'est-à-dire qu'il y a il y a plusieurs envois prévus et avec des chiffres hyper impressionnants.
Mise en orbite de 42 000 satellites au cours des 10 prochaines années.
Et
ce qui n'est pas rien.
Non. Et des personnes justement alertaient sur la problématique d'avoir tous ces satellites ensuite. On imagine, parce qu'on met du plastique dans les océans, mais on est en train de polluer l'espace avec tous les satellites.
Exactement. Et un vrai danger, parce que ce sont, c'est avec des vitesses aussi que l'on n'arrive pas à réaliser, nous, sur Terre, parce que déjà 100 km/h pour nous, c'est déjà rapide.
Oui.
Mais là, ce sont des missiles, en fait, ambulants.
C'est ça. Donc déjà, ça pose des problèmes pour tout ce qui va être conquête de l'espace, parce que ça peut gêner. Mais justement aussi, donc beaucoup d'observateurs et de scientifiques qui observent via des télescopes les autres planètes, etc., se disaient déjà gênés. Et de plus en plus vont l'être par des satellites parasites qui vont venir gêner les images, gêner à des moments la captation de la lumière, etc.
Donc, ça devient une zone, c'est une zone de non-droit et ça devient une zone qu'on est en train de polluer, en fait. On est formidable, l'espèce humaine est formidable, en fait. Elle veut laisser une trace partout où elle est. Oui. C'est drôle, ça, quand même.
Alors, il y avait un scientifique qui disait, je crois, et c'était assez intéressant, il disait, pour gagner quelques secondes de téléchargement, avoir accès plus vite à un jeu vidéo, évidemment, il caricature un peu la situation, parce que ça a permis aussi d'équiper plein de gens qui étaient complètement coupés de tout moyen de communication. Il y a quand même un côté positif.
Oui, non, mais il faut trouver un juste milieu dans tout
Exactement,
ça, bien sûr.
Et avec une certaine régulation
Qui n'a pas l'air d'exister. Je trouvais cet article assez intéressant, parce que ça évoquait un autre sujet de l'espace. On parle très souvent d'espace dans cette émission, parce que j'aime bien, parce que d'un point de vue technologique, il y a des choses formidables qui sont en train de se faire. Mais là, c'était un côté de cette conquête spatiale qu'on n'évoque pas souvent. On en avait parlé il y a quelques années maintenant de cette pollution. Mais là, c'est dans l'idée de pouvoir prendre contrôle aussi de ces satellites. Et ça a l'air d'être facile, en fait. Enfin, ça ne l'est pas pour moi, je n'ai pas du tout ces compétences, mais je ne doute pas qu'il y a...
En tout cas, beaucoup plus facile que ça ne devrait, ça c'est visiblement, c'est quand même...
Je pense qu'à mon avis, ça risque d'être assez facile à prendre en main, mais bon, à voir. On verra bien sûr, mais ça peut être maintenant, le cyberterrorisme peut aussi peut-être éventuellement passer par ce biais-là.
On verra, on suivra cette actualité.
On suivra bien sûr cette actualité. On continue, Carole, avec quoi ?
Oui, alors on va partir sur une découverte. J'ai gardé quelque chose, une petite nouvelle sympathique, puisqu'en Israël, un nageur a découvert une encre égyptienne de plus de 3400 ans. En tout cas, c'est la question qu'on s'est posée. Et donc, c'est un article relayé par Géo qui date donc de fin février, puisque donc, c'était en 2019. Un vétérinaire qui nageait au large des côtes israéliennes, donc on imagine, il faisait sa petite baignade, il a découvert une encre et visiblement pas n'importe laquelle, puisque c'était l'artefact marqué de hiéroglyphes d'une incroyable qualité provenant d'Égypte et datant de l'âge de bronze. On peut se demander comment c'est possible. Il ne pensait certainement pas vivre un tel événement au moment de plonger, ça c'est sûr. Donc ce vétérinaire nommé Rafi Bahaouloul, il s'est baigné au large donc d'Atlit en Israël et il est alerté par ce qui semble être des hiéroglyphes. Alors il ne le sait pas encore hein, que justement cette encre en pierre égyptienne de l'âge de bronze est datée de 3400 ans. Les gravures sont d'une incroyable qualité et parmi lesquelles on distingue une femme en train d'écrire sur une tablette. Il s'agit de la déesse égyptienne de l'écriture, Sesaat. Cet excellent état de conservation en fait, s'explique car l'artefact a pendant des millénaires été enfoui dans le sable avant d'être déplacé par les orages. Des experts de l'autorité des antiquités d'Israël ont été mandatés pour examiner la pièce qui est aujourd'hui exposée au musée d'Israël à Jérusalem. L'utilisation de ce type d'encre était en fait assez commune chez des navigateurs durant l'âge de bronze. C'est une période, je le rappelle, qui s'étend de 3000 à 1200 avant Jésus-Christ. Ce qui est intéressant dans ce cas-là, c'est de constater que l'objet, au-delà de la qualité de ses gravures, il avait déjà été utilisé dans un autre cadre, puisqu'en effet, l'encre serait issue d'un plus grand ensemble destiné à décorer un édifice égyptien. Une forme en fait de recyclage courante pour l'époque et les matériaux précieux comme la pierre de la vallée du Nil, dont était donc composée cette encre. Le visage, donc il y a un détail voilà, justement, qui a retenu l'attention des archéologues, c'est que le visage de la déesse Sesaat, il a été volontairement dégradé. Alors Shirley Bendor Evian, conservatrice de l'archéologie égyptienne au musée d'Israël, a déclaré qu'il s'agirait d'une marque de respect envers la divinité. Le visage de Sesaat aurait été ciselé pour lui enlever sa qualité de déesse, donc sa sacralité, avant d'être utilisé comme encre. Utiliser son image pour cette fonction aurait été dégradant. Une autre théorie, ce serait que la déesse ait été victime d'une campagne iconoclaste, comme ça a pu arriver, ça a pu se produire hein, à différentes reprises durant la période de l'Égypte ancienne. Mais c'est encore une fois donc déjà incroyable de retrouver comme ça cet objet de cette manière aussi insolite. Et puis surtout d'avoir une qualité d'information dessus pour justement essayer de comprendre des nouvelles choses donc, de l'histoire égyptienne.
C'est génial, tu fais plouf comme ça et tu découvres quelque chose de fascinant.
Ça ne m'est pas encore arrivé. Mais
ça ne serait tardé. C'est un nageur israélien, c'est ça ?
Alors, lui, est-ce qu'il l'était
Non, pas nécessairement.
Il était vétérinaire.
C'était pas ma question, mais je vois que c'est un élément assez important. Est-ce qu'il avait le torse imberbe ?
Ils ne le disent pas. Il avait 55 ans. Je suis en train de rechercher les uns. Mais en tout cas, voilà, il s'est baigné et il est tombé dessus, donc sur cette pièce qui, à mon avis, ne manquera pas après qu'on puisse la visiter dans un musée, hein, c'est sûr.
Je te parle de torse imberbe parce qu'on risque peut-être d'avoir la réponse scientifique à la question pourquoi les femmes préfèrent les torses imberbes. La séduction passionne beaucoup les chercheurs. Après ceux qui tentent de comprendre pourquoi les seins des femmes plaisent tant aux hommes, et bien d'autres s'intéressent aux effets des torses masculins, poilus ou non, sur l'attirance féminine. Il est évident que j'attendais ta présence, Carole, dans cette émission pour avoir ton avis sur la question. Une théorie qui existe, qui est celle de l'évitement des ectoparasites, est remise en cause par un travail des chercheurs de l'université de Trnava, je ne sais pas trop comment ça se prononce, c'est en Slovaquie. Même si leurs résultats sont contestables, les biologistes cherche la réponse dans les lois de l'évolution. Pour que l'espèce humaine ait perdu peu à peu ses poils, cela devait procurer un avantage. L'hypothèse dominante consiste donc à penser que les poils, même s'ils réchauffent, favorisent l'installation de parasites tels que des poux qui dégradent bien sûr les conditions de vie. Donc ça n'intéresse pas toutes ces dames qui auraient eu une préférence pour les hommes au torse dégarni, risquant ainsi moins de les contaminer. C'est l'hypothèse donc de ces fameux évitements des ectoparasites. Mais cette vision des choses relève davantage de l'empirisme que de la validation scientifique. Alors, Pavol Prokop et son équipe ont voulu tester la théorie. Leur idée, c'est la suivante. Si l'attirance pour les torses imberbes est guidée par la volonté de ne pas attraper de parasites, alors elle doit être encore plus prégnante chez les femmes qui vivent dans des territoires aux nombreuses maladies parasitaires. Et donc, ils ont fait leur étude qui a été publiée dans la revue Archive of Sexual Behavior, qui a montré en fait que ce n'était pas tout à fait le cas. Le protocole a fait appel à un groupe d'étudiantes. Elles étaient précisément 344. Il y en a à peu près, grosso modo, la moitié qui était turque. L'autre moitié était de nationalité slovaque. La Turquie connaît un taux de maladies parasitaires comme le paludisme, la dengue, le schistosomiase, beaucoup plus élevé que la Slovaquie. Et donc, les scientifiques, ils ont voulu tester l'hypothèse en partant du principe que les femmes vont manifester davantage d'intérêt pour un corps masculin sans poils par rapport à celle de la Slovaquie, donc plutôt en Europe centrale. Et ces volontaires avaient donc pour mission de noter l'attirance que suscitaient chez elles des photos de torses d'hommes poilus pour ou non. Alors, pour essayer d'éviter un petit peu tous les mauvaises les biais expérimentaux,
oui, parce
pour
que
avoir
là, on
un
en
protocole
voit plein,
expérimental
là. Oui.
assez précis, on a demandé donc à ces hommes de se photographier avant et après s'être rasé la poitrine, si bien que c'est le seul paramètre qui change.
D'accord.
Et leurs prédictions originelles n'ont pas été vérifiées. Et donc, résultat, les Turcs et les Slovaques préfèrent dans des taux très similaires les hommes les moins velus. Et donc, on n'a pas du tout confirmé, validé cette théorie de départ. Peu importe les taux de maladies parasitaires, les femmes n'aiment pas les poils. Les auteurs comptaient élargir leur étude et inclure d'autres peuples pour vérifier un petit peu ce côté universel de leur découverte. Des précédents travaux avaient par exemple montré que les Camerounaises préféraient les torses bien garnis, à la différence des Chinoises, des Néo-Zélandaises ou des Californiennes. Je trouve que refaire ce genre d'expérience est quand même assez fascinant.
Oui.
Mais cela pourrait être encore plus complexe. La période du cycle menstruel rentrerait en ligne de compte. Durant sa phase de fertilité, une femme aimerait davantage les hommes imberbes, tandis qu'elle manifesterait plus d'intérêt au poil le reste du temps. T'as intérêt à tomber sur la bonne période. Mais avant de poursuivre plus loin leur expérience, il est à noter un point un petit peu bancal, nous dit cet article de Futura Science, parce que les scientifiques considèrent la perte de poils comme un avantage adaptatif contre les maladies parasitaires et principalement contre les ectoparasites, donc comme je vous l'ai dit, les poux, qui vivent à nos dépens sur la surface de notre corps. Or, si effectivement les parasitos sévissent plus en Turquie qu'en Slovaquie, ce qui était le cas donc pour cette étude, c'était ces deux zones qui avaient été étudiées, les trois maladies qu'ils vont spécifier dans leur travail, donc le paludisme, la dengue et la schistosomiase, sont causées par des endoparasites dus à des vecteurs retrouvés à l'intérieur du corps. Donc on n'est pas non plus dans une situation totalement scientifiquement bien claire et bien précise. On voit mal comment ils peuvent ne pas valider l'hypothèse de l'évitement des ectoparasites s'ils ne s'y intéressent pas, en tout cas dans cette étude. Donc on est bien d'accord que c'est une étude un peu particulière, mais c'était un hommage que je voulais souhaiter à Carole.
Merci.
Bien évidemment, Carole, je ne te poserai pas cette question de savoir si tu préfères les torses imberbes. Nous saurons ça peut-être à l'émission de la semaine prochaine.
Peut-être, il faudra revenir écouter l'émission.
Il faudra suivre ton compte Instagram pour suivre les stories. Peut-être qu'on aura des fois la réponse. Et on se retrouve donc samedi prochain pour une nouvelle émission de Biotine sur l'antenne de Graphite. Est-ce que tu peux dès aujourd'hui nous donner un petit peu le sommaire de ce que tu souhaites évoquer pour nous la semaine prochaine?
Ce sera en grande partie la surprise, mais
ça veut dire que tu ne sais pas.
Oui, voilà. J'ai une semaine pour y réfléchir. Vu que j'aime voyager dans le temps, on va partir 10 000 ans en arrière et justement découvrir comme notre Terre peut être fascinante et comment était donc le Sahara il y a 10 000 ans.
Et on évoquera les pesticides en France. On nous avait dit qu'ils devaient baisser de 50% les pesticides. On se rend compte dans une étude récente qu'en fait, ils ont augmenté d'un quart. Je trouve que ça, c'est
ça, pareil, ça va être une information assez anxiogène.
Et si vous êtes sage, et si tu es sage, Carole, on aura cette question. On abordera ces 1500 danses des abeilles qui ont été décryptées par des scientifiques. Je pense que ça va te faire plaisir. Et on retrouvera bien sûr la semaine prochaine Anne Fleur qui nous emmène en Afrique et plus précisément au Sénégal pour InnoCity. C'était Biotine sur l'antenne de Graphite. Merci Carole.
Merci Jean-Noël.
Rendez-vous samedi prochain, 12h sur l'antenne de Graphite. Graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet et le 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM. D'ici là, vous restez bien sûr fidèles à l'ensemble des émissions de Graphite. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Au revoir.